Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour cette nouvelle invitation dans votre Église. Voilà, c'est toujours un honneur pour moi de pouvoir partager la parole dans différentes églises. Voilà, ça me permet de rencontrer beaucoup de gens, de rencontrer des gens que je connais moins, mais ce sont mes frères, même si je ne les ai jamais vus. Nous sommes tous frères et sœurs dans la foi. Alors ce matin, justement, suite à ce petit film que vous avez vu, je me suis posé un jour une réflexion en tant que chrétien. De quoi nourrissons-nous notre foi ? C'est important de voir, c'est une bonne question. On nourrit sa foi des messages qu'on reçoit quand on vient au culte et qu'on peut partager entre frères et sœurs. Bien entendu, on nourrit notre foi comme ça, par ces messages. Il me semble d'ailleurs que c'est le but de ces messages, c'est de nous exhorter, de nous renforcer quand on sort en général d'un culte. Je dis toujours, on n'est pas le même quand on rentre que quand on sort. Il y a quelque chose qui a changé, ou qui devrait changer au moins. Je voudrais aussi, il y a quelque temps, nous avons parlé un petit peu de que nous étions enfants de Dieu. Pour ceux qui étaient là quand je suis venu dernièrement, j'avais mis en avant, c'est quoi être un enfant de Dieu ? Mais un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui lui appartient, c'est quelqu'un qui a pris un engagement. Je ne vais pas refaire toute cette prédication. En résumé, c'est ça. Mais pour pouvoir rester accroché à Dieu, il y a quelque chose qui doit être fait. L'apôtre Pierre, d'ailleurs, dans sa deuxième épître, va nous rappeler que nous devons continuer à avancer dans ce qu'il appelle la science, la connaissance, afin que nous ne chutions pas le jour où il peut y avoir des choses qui se passent. Et ces jeunes gens et tout ça, ces gens que je vois là-bas au Mali, eh bien, je me dis que parfois, ils ont vraiment ancré cette parole en eux, parce qu'ils ont toutes les raisons, parfois, de perdre leur foi. Ils sont soumis à des épreuves terribles. D'ailleurs, l'apôtre Pierre utilise cette phrase même, il dit « Continuez à vous avancer dans la science, dans la seconde épître de Pierre, afin que vous soyez affermis dans la vérité. » Je ne vais pas prendre le texte de Pierre. Je vais prendre deux autres textes. Je vais en prendre un premier. Je vous invite à prendre votre Bible dans l'Évangile de Matthieu. Dans l'Évangile de Matthieu, c'est un texte que tout le monde connaît très très bien, au chapitre 4. Et nous allons lire à partir du verset 1er. C'est ce texte que dans certaines Bibles, vous avez un titre où on parle de la tentation du Christ. C'est fort, hein ? Satan est arrivé à aller jusqu'à chercher à le tenter à lui. Alors imaginez ce que nous sommes. Et le texte nous dit ceci. Je le lis dans la version second 21. « Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. » Ça me paraît normal. « Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Et Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte et le plaça sur le haut du temple. Et il lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Et le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et il lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Et Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Le second texte que nous allons prendre est vraiment tout à la fin de la Bible. C'est le livre de l'Apocalypse. Dans le livre de l'Apocalypse, nous allons lire au chapitre 19, et là nous lirons que quelques versets. Apocalypse 19, et nous lirons à partir du verset 11. Puis, je vis le ciel ouvert, et voici paru un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sa tête était sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il y avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Jusqu'ici, la lecture de la parole. Voilà ce que je pourrais appeler un grand écart. J'ai pris le premier livre des évangiles et le dernier livre qu'on retrouve dans le Nouveau Testament. Entre cela, combien de fois ne sommes-nous pas interpellés de nous affermir dans la parole ? Je vous invite peut-être un jour à relire comme ça, tous les matins un petit peu pour relire tous les évangiles, et vous allez voir combien de fois il nous est rappelé. Et ce n'est pas pour rien. Alors, vous savez, la fois passée, je dis toujours, quand je vis dans une église, je n'ai pas envie d'être le seul à travailler. J'ai toujours tendance à faire travailler l'église aussi un petit peu. Comme ça, c'est un peu plus juste, non ? Comme ça, on peut partager vraiment. Alors, je vais poser des questions ici à l'Assemblée. Je vous demande de vous manifester tout simplement en levant la main. Si vous pouvez accéder, vous pouvez répondre à cette question. Alors, je vais vous poser la première question, c'est qui d'entre vous, ici, présent, était là, physiquement, sur place, lorsque le peuple d'Israël a traversé la mer Rouge ? Personne. Bon, ben ça fait rien. On va se rapprocher dans le temps, c'était quand même très loin. On va se rapprocher un petit peu. Alors, qui d'entre vous, ici, était présent au pied du mont Golgotha pour voir le Christ crucifié ? Ah, il va vraiment falloir qu'on se rapproche dans le temps, parce que là, on est encore quand même assez loin. Alors, on va se rapprocher et on va dire, qui d'entre vous a vu et entendu personnellement l'apôtre Paul prêcher l'évangile de la grâce ? Personne. Rassurez-vous, j'y étais pas non plus. Alors, comment est-ce qu'on sait ça ? Comment est-ce qu'on connaît ça ? Parce que on nous l'a dit ? Parce que peut-être un jour, il y a un pasteur ici qui a prêché sur ces événements ? C'est pour ça qu'on les connaît ? Parce que j'ai été sur Internet, sur une plateforme informatique, et j'ai trouvé plein de renseignements par rapport à ces événements ? C'est toutes sortes de pistes, hein ? Ou tout simplement, y croyons-nous parce que nous avons la foi. Moi, j'ai plutôt tendance à penser que si on y croit, c'est parce qu'on a la foi. Sinon, comment peut-on croire à quelque chose qu'on n'a pas vu si on n'a pas la foi en ce qui s'est passé ? Donc, on a la foi. Mais une chose est sûre, je pense que notre foi, ça se nourrit. Notre foi, pour qu'elle reste forte, doit être nourrie. Alors vient la question, de quoi nourrit-on-nous notre foi ? Je vais prendre un exemple très terre à terre. Très terre à terre, nous nous nourrissons tous les jours. Nous mangeons tous les jours, au moins 3 fois par jour. Enfin, c'est un minimum. Les gourmands comme moi, ça peut aller à 4 et peut-être un peu plus. Mais ça, c'est autre chose. Le propre de l'homme est de devoir, à un moment donné, se nourrir, pour plusieurs raisons. Pour pouvoir vivre, pour pouvoir aussi croître, mais aussi pour pouvoir avancer intellectuellement. Et la force de certaines sectes est d'avoir bien compris cela. Bien souvent, ce genre de sectes, lorsqu'ils font des grands séminaires ou des grands rassemblements, la première chose qu'ils vont faire, c'est vous forcer à des jeûnes très sévères. Vous mettre vraiment dans une situation de stress. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, vous allez être vraiment affaibli, complètement, et au moment où vous êtes affaibli, là, ils peuvent intervenir. Revenons dans le premier texte qu'on a lu. Quand est-ce que Satan vient vers Jésus ? Après 40 jours de jeûne. N'oublions pas que Jésus est humain. Jésus, c'est Dieu qui s'est fait homme. Jésus, c'est un homme. D'ailleurs, le texte nous dit, après 40 jours, il eut faim. J'ai même fait la remarque, ça je comprends. Essayez de jeûner 40 jours pour voir si vous n'avez pas faim. le 41e jour. Et Satan est là. Mais là, il a en face de lui quelqu'un qui sait de quoi il parle. Quand vous êtes faible, il y a une place à prendre. Ne pas nourrir suffisamment sa foi, ne pas se remplir de cette parole de Dieu, journellement, et je dis bien journellement, eh bien, c'est nous mettre en danger à un moment donné. C'est nous mettre en danger à un moment donné parce que nous pouvons être bousculés par n'importe quoi dans notre vie. Alors, il y a plusieurs manières de se nourrir spirituellement. Maintenant, avec Internet, on a un panel, quelque chose de magnifique. Vous allez, moi j'ai la Bible sur Internet, j'ai des concordants sur Internet, on a tout. C'est bien. Et puis le nombre de prédicateurs, tapez n'importe quel sujet dans votre ordinateur, vous allez voir, il y a plein de gens qui ont des idées là-dessus. Moi, je trouve ça fabuleux. Je ne dis pas que c'est mauvais. Ça, je ne dis pas. Mais il faut savoir discerner quand on entend des choses pareilles. Parce que parfois, je dois vous dire que j'entends parfois des messages et ça me fait un petit peu froid dans le dos ce que j'entends. On n'est plus dans l'unité, on est parfois dans d'autres choses. Mais pourtant, ce sont des gens qui se basent sur la parole. Ils connaissent bien leur Bible, N'ayez pas peur. Mais seulement, ce qui est important, lorsque vous faites ça, quel échange pouvez-vous avoir avec la personne qui est de l'autre côté de l'écran? Aucun. Vous subissez, en fin de compte, ce qu'il vous dit. Vous l'avalez ou vous ne l'avalez pas, mais vous le subissez. Vous n'avez pas d'échange. Se nourrir de la parole de Dieu, ça se fait aussi entre nous. Et c'est à ça que je vais vous dire. C'est quelque chose d'important. Les rencontres autour de la Bible, c'est quelque chose de fondamental. C'est quelque chose que l'on ne doit pas négliger. Bien-aimés, soyons honnêtes, on trouve du temps pour faire plein de choses. On trouve plein de temps pour faire des choses. Mais combien de fois n'entend-on pas lorsqu'on a une rencontre, moi je n'appelle pas ça, je n'aime pas trop le mot étude biblique, je parle de partage autour de la parole. Parce que étude, là, de nouveau, il y a un professeur qui nous dit ce qu'on doit faire, etc. Pour moi, une étude, c'est ça. Non, le partage autour de la parole est quelque chose d'important. Mais combien de fois je n'entends pas « Oh, j'avais plein de choses à faire, je n'ai pas su venir. » C'était incroyable, je n'ai vraiment pas eu le temps. Oui, d'accord, ça peut arriver. Mais quand ça arrive tout le temps, là, il y a un problème. Là, il faut à un moment donné, en tant que chrétien, qu'on réfléchisse et qu'on se dise « Où mettons-nous nos priorités ?» L'apôtre Paul, d'ailleurs, pour revenir dans ce centre-là, va nous dire, eh bien, prenez peut-être vous-même dans l'Épître aux Éphésiens. Dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 6, je pense que l'apôtre Paul dit quelque chose de très intéressant. Qu'est-ce qu'il nous dit là, Éphésiens, chapitre 6? Il nous parle de la parole de Dieu. Vous connaissez ce texte, les armes de la foi. Mettez-vous les armes de la foi, vous connaissez, prenez le bouclier, prenez la ceinture, prenez tout ça. Et il termine par quoi? Il termine au chapitre 6, au verset 17, « Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. » Le casque du salut. Pourquoi un casque? Pourquoi est-ce qu'on met un casque sur les chantiers? Pourquoi est-ce que les soldats mettent un casque pour aller au combat? Pour protéger leur tête? Pour protéger ce qu'on a dans notre tête? C'est le casque du salut. Et ça, c'est quelque chose que Dieu nous fournit. Il se met en protection par rapport à nous. Mais, juste après, il y a l'épée de l'esprit, qui est quoi? La parole de Dieu. Ça, l'épée, c'est l'arme qui sert à se défendre ou à aller au combat. Vous êtes d'accord avec moi, là, quand même. Et alors, il dit que ça, c'est la parole de Dieu. Comment peut-on, bien-aimé, si on ne se nourrit pas de cette parole, avoir cette épée dans les mains? Est-ce que cette épée, elle est comme ça? Elle est comme ça? Elle est comme ça? Je pense que plus grand elle est, plus nous avons des chances de pouvoir nous défendre contre quoi que ce soit qui nous arrive et avoir les réponses. Et ça, on ne peut le trouver que où ? Ici. Dans la parole de Dieu. C'est bien pour ça que l'apôtre Paul parle de l'épée de la parole. Mais là, je voudrais aussi faire une petite parenthèse. Un peu plus loin, dans un texte, il parle d'une arme à double tranchant. Ah, ça, c'est intéressant. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant pour nous. Parce que pointer la parole de Dieu vers les autres, c'est bien. Mais la parole de Dieu doit pouvoir m'interpeller aussi. Doit pouvoir susciter en moi du changement. Je dois pouvoir me dire, lorsque je lis la parole, est-ce que tout va bien chez moi ? Vous savez, un jour, il y avait un pasteur qui, dans son culte, disait « Quand vous pointez votre doigt vers quelqu'un comme ça, vous avez vu ma main ? Il y a un doigt vers vous. Hein. Regardez tous les doigts qui sont tournés vers moi. Il y en a un paquet. Hein. Un, deux, trois. Trois doigts vers moi et un vers les autres. La parole de Dieu, c'est bien ça aussi. Et je crois que c'est aussi une importance de la parole de Dieu. L'importance d'être dedans. Et je pense qu'on doit être dedans même, ça c'est mon avis, mais je vous exhorte vraiment à faire cet effort, de prendre un temps tous les jours pour aller dans la parole de Dieu. Vous allez être surpris. Vous allez être surpris de comment cette parole peut vous interpeller personnellement. La parole de Dieu, c'est un livre qui a été écrit pour tout le monde. Mais ce qui est là-dedans nous interpelle personnellement. Ça, c'est quelque chose qu'on découvre quand on rentre dans la parole. Et ce n'est pas la première fois que j'entends quelqu'un qui me dit « Eh bien, tu sais, hier, j'ai lu ça dans la Bible. » Et je me suis dit « C'est pour moi. C'est pas possible, c'est pour moi. Comment j'ai pu tomber là-dessus ? C'est pour moi. » toute la puissance de notre foi est là-dedans. Elle n'est nulle part d'autre. Elle est ici, oui. Ici, c'est une communion. Pour moi, ici, c'est une communion fraternelle. Nous partageons quelque chose à la gloire du Seigneur. Ça fait partie de notre foi, mais ce n'est pas pour moi l'essentiel de notre foi. Ce n'est pas pour moi l'essentiel de ma foi. L'essentiel du renfort de ma foi, c'est ici dedans, je le trouve, et nulle part d'autre. Pas sur Internet, pas nulle part. Et je le trouve aussi dans les échanges que je peux avoir avec les autres. Les gens qui m'ont ramené à la foi, certains d'entre vous les connaissent, c'est ce qu'on appelle les adventistes. Est-ce que vous connaissez le fondamental de comment les adventistes travaillent ? Ils sont continuellement dans la parole. Continuellement. Alors j'étais dridé, je suis tombé dedans en étant petit, moi. Moi qui venais d'un milieu catholique, qui m'était séparé complètement de Dieu, je les remercie parce qu'ils m'ont ramené vers le Christ. Et ils m'ont ramené ici, dans ma Bible. Pendant la semaine, nous étudions notre Bible et nous mettions cela en commun le samedi matin. Parce qu'ils se réunissent le samedi, les adventistes, pour ceux qui ne le savent pas. Ils sont sabbatistes, comme on appelle. Le samedi matin, nous nous réunions en petits groupes et nous partagions autour de la parole. Et nous nous exhortions l'un l'autre, tout comme l'apôtre Paul dit. Exhortez-vous les uns les autres, aussi longtemps qu'il est dit aujourd'hui. Et ça, c'est un texte que l'on retrouve dans l'Épître aux Hébreux, pour ceux qui veulent prendre des notes, au chapitre 3, le verset 13 de l'Épître aux Hébreux. Exhortez-vous les uns les autres. Comment peut-on s'exhorter dans la parole si on ne se rencontre pas autour de la parole ? J'ai entendu tout à l'heure dans les annonces que vous avez des rencontres de maison. Ne les boudez pas, allez-y. Et si vous ne savez pas y aller, mais vous pouvez le faire chez vous à la maison. Le culte familial est quelque chose qui existe. Et j'ai tendance parfois à dire, et ma femme un jour m'a repris là-dessus, elle m'a montré le doigt, « Mesdames, exhortez vos maris, hein. Allez-y. Hein. » Elle m'a dit « Est-ce que je peux t'exhorter ?» J'ai dit « Oui, ce que je viens de dire, là, il n'y avait pas trop le choix. » Exhortez-vous les uns les autres dans un couple. Pourquoi est-ce que Dieu dit quand il crée la femme, je vais mettre en face de l'homme un vis-à-vis, une aide ? Un vis-à-vis, ça veut dire que l'homme est vis-à-vis de sa femme et la femme est vis-à-vis de l'autre. Et il ne faut pas avoir peur de s'exhorter l'un l'autre dans la parole de Dieu, dans la foi. C'est important. parce que c'est comme ça que nous grandissons, en nous exhortant les uns les autres. Et c'est pas pour rien que Paul le dit, exhortez-vous les uns des autres chaque jour. Il dit chaque jour, vous imaginez. Aussi longtemps qu'il est dit aujourd'hui. Je ne vais pas lui dire ça demain, parce que demain peut-être qu'on n'y pense plus. Non, aujourd'hui. Et ça, je crois que c'est important. Mais pour ça, nous devons être nourris de la parole. Comment peut-on exhorter quelqu'un si nous ne sommes pas nourris de la parole de Dieu ? Ça, c'est une question que je pose, tout simplement, qu'on met à notre propre réflexion. Personnellement, je pense que la nécessité d'être tout le temps dans cette parole, c'est de savoir exactement ce que Dieu veut de nous. C'est aussi ce qu'elle nous apprend. Ce ne sont pas ceux qui crieront « Seigneur, Seigneur », mais ce sont ceux qui auront fait mes commandements et qui ont suivi ce que je leur ai enseigné. Bien-aimés, comment pouvons-nous savoir ce qui nous a été enseigné si nous ouvrons notre Bible le dimanche matin parce qu'il y a un texte à lire et puis le restant de la semaine, elle fait partie de la bibliothèque? Comment pourrons-nous savoir exactement ce que Jésus attend de nous? On sait, en gros, parce qu'on est enseigné là-dessus. Mais qu'est-ce qu'il attend de toi, personnellement? Ça, tu ne peux le trouver qu'ici. Ce qu'il attend de toi, personnellement, c'est là que tu vas le trouver. Et nulle part d'autre. Pas vers quelqu'un qui va te prêcher. Pas quelqu'un qui va te dire, tu devrais faire ça, tu devrais faire ça, tu devrais faire ça. Ça va t'aider. Mais c'est là que tu vas trouver ce qui va te toucher à toi, personnellement, au moment où tu en auras besoin. Ça, c'est quelque chose aussi qu'on apprend petit à petit. En cherchant dans la parole. Et je suis certain que vous êtes convaincus de ça. Je pense que tout le monde est convaincu de ça. Je crois que tout chrétien est convaincu du fait que la Bible, c'est le centre de notre foi, elle est là. Ça n'est pas pour rien que ça a été écrit. Aussi bien l'Ancien Testament, comme on dit, que le Nouveau Testament. Parce que bien souvent, nous lisons essentiellement le Nouveau Testament, mais vous savez le nombre d'enseignements qu'il y a dans l'Ancien Testament pour nous. Mais c'est fabuleux, hein, ce que je vois là. Et le nombre de promesses qu'il y a dans la Bible, il y avait quelqu'un un jour qui demandait à une assemblée, est-ce que quelqu'un peut me citer comme ça 30 promesses qui sont dans la Bible? Allez, levez la main, qui sait me dire ça? 30, allez. Ben moi-même, j'avais du mal à répondre, hein. Comme ça, à froid, j'aurais pas su. Mais lui, il était capable de le faire. Combien de promesses y a-t-il dans la Bible? Quelqu'un peut me dire combien de promesses il y a dans la Bible? Énorme. C'est énorme. Il y en a plusieurs pour remplir chaque fois votre journée. Mais on ne les connaît pas tous. Et elles ne sont pas toutes, au moment où nous les lisons, elles ne sont pas toutes d'actualité, non. Mais il y en a une qui sera d'actualité pour toi à un moment donné. Parce que quelque chose se sera passé dans ta vie, tu auras fait quelque chose ou tu auras produit quelque chose et cette promesse-là, elle va revenir vers toi. Et elle a été écrite il y a tellement longtemps. Et Dieu l'a faite il y a tellement longtemps. Parce que Dieu sait depuis le départ qui tu es. Jérémie, avant que ta mère te conçoive, je savais qui tu étais. C'est valable pour chacun d'entre nous. Avant que nous naissions, avant qu'on ouvrait les yeux, Dieu savait déjà qui nous étions. Est-ce que vous croyez ça quand je dis ça? Est-ce que vous croyez que Dieu savait qui vous étiez même avant que vous soyez né? Je ne sais pas, je vous pose la question, est-ce que vous croyez ça? Ben oui. Dieu, il sait qui tu es, il te connaît personnellement, et ce qu'il a écrit, ce qu'il a donné comme ordonnance, ce qu'il a inspiré, les enseignements que Jésus a fait parce que s'il était lui sur terre, tout cela était non pas pour les gens de son époque. Jésus a parlé pour les Juifs quand il était là. Non, il a parlé pour tout le monde. Il a parlé pour ceux d'avant, pour ceux d'eux. Il était et ceux qui allaient venir. Et c'est ça qui est important de voir. Et je pense que je vais terminer par un petit témoignage. J'aime bien les témoignages. Il y a bien longtemps de ça, j'étais beaucoup plus jeune, je m'occupais de groupes de jeunes. Je suis beaucoup occupé et investi dans la jeunesse à un moment donné. Et lorsque je parlais avec les jeunes, j'appelais ceci la Bible et je disais, vous marquez en dessous, La Bible, il y a marqué la Sainte Bible, mode d'emploi. La Bible, mode d'emploi. Incroyable. C'est quoi un mode d'emploi? Un mode d'emploi, tout bon technicien sait ça, d'ailleurs souvent les techniciens ne lisent pas les modes d'emploi, tout bon technicien sait qu'un mode d'emploi, c'est ce qui va lui permettre de pouvoir travailler avec un outil ou avec une machine quelconque. Une machine à laver, quand elle rentre chez vous, elle est toute neuve, il faut à un moment donné, il faut ouvrir le mode d'emploi quand même. Il faut savoir où on met le savon, il faut savoir ce qu'on fait. Donc le mode d'emploi, c'est ça. Et si je leur disais ça, la Bible, c'est votre mode d'emploi, c'est le mode d'emploi pour votre vie. C'est le mode d'emploi qui va vous permettre de conduire votre vie et de faire de votre vie ce que Dieu attend de vous. C'est ça, la Bible. C'est un mode d'emploi. Et un peu plus loin, dans le témoignage que je voudrais vous donner, je vais vous parler de quelque chose. Il y a quelque temps déjà de ça, j'ai reçu un message d'une jeune femme que j'avais connue adolescente. Je l'avais connue adolescente parce qu'à un moment donné, elle voulait aller vers le baptême et on avait à ce moment-là ce qu'on appelait des classes baptismales où on donnait un petit peu des explications par rapport au baptême et comment on allait au baptême. Et cette jeune femme, à un moment donné, s'est écartée. Elle me dit ça, tu sais, moi, à un moment donné, j'ai perdu la foi, je me suis écarté de Dieu. Et elle m'explique pourquoi. Elle m'a expliqué pourquoi, parce que quelque part, elle était rentrée un peu dans le monde, elle s'était fait accaparer par le monde, et voilà, elle avait commencé à changer de vie. Elle a commencé à rentrer dans la drogue, elle a commencé à rentrer dans plein de choses, et puis à un moment donné, elle s'est retrouvée face à quelqu'un qui était violent, qui l'a mis enceinte, donc elle s'est retrouvée enceinte, et comme il était violent, un jour, il a battu alors qu'elle était enceinte, et là, c'était de trop. Elle s'est ressaisie, et elle est allée, le seul endroit où elle pouvait savoir qu'elle allait être en sécurité, elle est retournée chez ses parents. Ça vous dit rien, cette histoire? Ouais, hein? Ça vous rappelle quelque chose de la Bible? Quelqu'un qui retourne chez papa à un moment donné, après avoir complètement raté sa vie? C'est incroyable, hein? Parfois je dis, quand moi j'entends des choses pareilles, je dis, mais tout est là, c'est incroyable. Elle est retournée, et comme les parents sont vraiment de bons chrétiens, ils ne l'ont pas jugé, ils ne lui ont pas fait de mal, ils lui ont ouvert la porte et ils lui ont dit « Voilà, bienvenue à la maison, c'est bien, tu es revenu chez nous, c'est bien, et ta chambre, elle est là, elle est toujours là, on n'a rien touché, tout est là. Tu peux rentrer dans ta chambre, tu peux y aller. » Et elle me dit « Voilà, moi j'étais dans ma chambre et j'étais très triste de tout ce que j'avais vécu, je me faisais vraiment, je me morfondais, je ne savais pas quoi faire, j'étais vraiment mal, très mal. » Et puis, à un moment donné, je vois dans mes bibliothèques ma bonne vieille Bible. Ah, j'aime bien l'expression « ma bonne vieille Bible ». Tu sais, celle qu'on prenait quand on allait faire les petits cours et les partages avec toi. Et je prends ma Bible et je l'ouvre, comme ça. Je l'ouvre, comme moi je viens de le faire maintenant. J'ouvre ma Bible comme ça, sans réfléchir. Et vous savez sur quel texte elle tombe? Je vais vous le lire. Et puis après, on essaiera de savoir où est-ce qu'il y a ce texte. N'aie pas peur maintenant, car je suis avec toi. Ne lance pas ces regards inquiets, car ton Dieu, c'est moi. Je viens te rendre courage. J'arrive à ton secours et je te protège. Ma main droite tient sa promesse. Honte et déshonneur à ceux qui t'en veulent, qu'ils soient réduits à rien, qu'ils disparaissent tes adversaires. Tu chercheras vainement la trace de tes agresseurs. Ils seront réduits à rien du tout, ceux qui sont en guerre contre toi. Car moi, le Seigneur, je suis ton Dieu. Je tiens fermement ta main droite et je te répète, n'aie pas peur. Je viens à ton secours. Ésaïe, chapitre 41. Elle a été bouleversée. Elle a été bouleversée. Elle s'est rendue compte qu'au moment où elle en avait le plus besoin, ce qu'elle lisait dans la Bible, c'était un Dieu qui lui disait « Mais tu es revenu vers moi. Tu es revenu vers moi. Le passé est derrière toi. Tu es revenu vers moi, c'est ce qui compte. Un peu comme le père dans le fils prodigue. Papa, je serai ton esclave, je vais travailler pour toi. C'est quoi ? Et puis quoi encore ? Pas question, tu es mon fils. La Bible, c'est ça. La Bible, c'est un texte qui t'interpelle personnellement à un moment de ta vie. Ça t'est peut-être déjà arrivé, ça t'arrivera encore. Ça m'est déjà arrivé et ça m'arrivera encore. Et la Bible me permet, et je le répète, de savoir exactement ce que Dieu attend de moi. Et ça, c'est la chose la plus importante pour ma vie, c'est de savoir ça. Et je vais terminer parce que ça fait beaucoup d'informations. Je vais quand même peut-être revenir un petit peu sur ce petit film que vous avez vu avant de clôturer. Les jeunes gens que vous avez vus là, enfants, adolescents, sont dans une région du Mali qui est pour le moment très tourmentée. C'est une région où on enlève les pasteurs. C'est du terrorisme. Le terrorisme a le but de faire peur. Alors, on peut les tuer, mais ce n'est pas généralement ce qu'on fait. On les garde pendant quelques jours. Bon, une rançon, ils n'en auront pas parce que les gens n'ont pas d'argent. Et puis on le libère. Mais qu'est-ce qu'on lui dit ? On te libère. Si tu retournes dans ton village, si tu rouvres ton église, tu es mort. Les enfants que vous avez vus viennent d'endroits pareils. D'endroits où il n'y a plus d'église, où les églises sont fermées. Ou même une église de maison est un risque très grave. Parce que si le voisin parle, tout le monde va se faire tuer. Et là, leur reconnaissance, ils parlent beaucoup de la CAS, donc l'association chrétienne au Sahel, on a pu intervenir grâce à vous en partie, parce que l'Église a vraiment participé à cela. Et ça, c'était pour ça que je voulais vous montrer ce film. Mais la parole de Dieu est puissante. Il n'y a pas que ce pasteur qui s'appelle Mohamed, il est un jeune homme, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et je vais vous donner quelque chose qui m'a été raconté il n'y a pas tellement longtemps. Ils ont reçu des Bibles audio, d'accord ? Donc, ils rentrent avec ça chez eux à la maison. Il y a un jeune homme qui s'est fait voler sa Bible audio. Et quelqu'un qui est venu chez lui a dit, c'est quoi ça ? Donne-moi ça. Vous savez, là, on donne, hein, parce qu'on ne prend pas de risque. La personne qui lui a pris cette Bible audio l'a écouté. Et il s'est converti. Comme quoi, la parole de Dieu est quelque chose de puissant. La parole de Dieu peut toucher le cœur de n'importe qui. Mais le premier cœur que la parole de Dieu doit toucher, bien-aimé, c'est ton cœur. C'est ça, le plus important. Et cette nécessité s'appuie aussi sur ce que Jésus va dire dans l'évangile de Marc. Il va dire ceci, « Car il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes, et ils montreront des signes et des prodiges. » Pour séduire, si possible, les élus. Aujourd'hui, ça a commencé. Écoutez bien ce que je vous dis. Aujourd'hui, ça a commencé. C'est déjà là. Nous avons besoin de renforcer notre foi contre ces gens-là. Et ne croyez pas que ça se passe en dehors de l'Église. Aujourd'hui, j'ai entendu des messages dans des églises qui m'ont fait frémir. Je voyage un peu dans les églises, alors parfois je vais comme ça, je m'arrête et je vais quelque part. J'entends parfois des messages qui me font frémir. De la part de gens qui connaissent très bien leur Bible, hein. Revenons dans le texte là. Satan connaissait très bien les Écritures, hein. Vous avez vu comment il nommait les Écritures ? Fabuleux, hein ? Mais dans quel but ? Voilà, je crois que je vais m'arrêter là. Je voudrais simplement aller chercher quelques petits versets pour clôturer. En voilà déjà un qu'on retrouve dans le psaume 17, versets 4 et 5. « À la vue des actions des hommes, par la parole de tes lèvres, je me garde des sentiers des violents. » Par la parole de tes lèvres. Et plus généralement, on va retrouver dans le psaume 19, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ? En observant ta parole. Voilà. Si vous ne les trouvez pas comme ça très vite dans votre Bible, j'ai presque envie de vous dire, allez sur Internet, vous allez les retrouver. Mais voilà. Bien-aimé, je sais que c'était peut-être un message un petit peu dur, mais les temps présents nous appellent à être de plus en plus affermis dans la parole de Dieu et à de plus en plus y aller, parce que comme dit comme Pierre, ajoutez à la science, ajoutez la science à votre foi, ajoutez cela, il dit ça dans sa seconde épître, il va vers ça. Parce que lui, il savait à cette époque-là où il allait, la seconde épître de Pierre, je vais clôturer là, a été écrite peu de temps avant sa mort. Et Pierre savait que sa mort allait être le déclenchement des persécutions terribles que les chrétiens ont vécues à Rome. Voilà, je vous invite à un moment de prière. Seigneur notre Dieu, voilà, nous nous présentons devant toi, tels que nous sommes, tels que avec ce que nous faisons, avec ce que nous avons fait, avec ce que nous ferons encore, mais tu sais déjà tout cela, Seigneur. Mais nous te demandons que ton esprit reste vraiment sur nous, que ton esprit nous inspire et que ton esprit nous permette de comprendre ta parole, d'avancer dans notre foi par ta parole. Sois avec nous à côté de nous, assieds-toi à côté de nous lorsque nous lisons les Écritures afin que tu puisses nous expliquer parfois les choses que nous ne comprenons pas, tout en sachant qu'un jour nous serons devant toi et nous aurons les réponses. Et pour cela, nous te glorifions. Merci aussi pour la puissance de ta parole. Cette parole qui peut transpercer les cœurs, cette parole qui peut faire changer quelqu'un qui a peut-être le cœur dur, il a besoin d'entendre ta parole. Donne-moi cette force et ce courage de partager avec lui. Non pas de lui asséner ta parole, mais de la partager avec lui. Et afin de réfléchir ensemble. Nous avons besoin de toi aussi, toi notre Père qui es dans les cieux, parce que nous avons besoin de ta protection, parce que nous savons que c'est à toi qu'appartiennent la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.